Voilà, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous et de vous parler d'un sujet. Vous savez, souvent, on recherche souvent, il faut continuer à être comme ça d'ailleurs, on recherche souvent quelle est la volonté divine, quelle est la volonté de Dieu. On cherche la volonté de Dieu quant à, je ne sais pas, si vous avez... direction précise à prendre sur le plan professionnel, sur le plan, enfin, il y a un tas de sujets sur lesquels, eh bien, on recherche la volonté de Dieu. En fait, c'est pas simplement de chercher la volonté de Dieu, c'est d'accepter que Dieu nous dise oui. Alors ça, c'est super, ça va dans notre sens. Et c'est aussi d'accepter le non de Dieu. N-O-N, non. Je le dis bien, non. J'ai l'impression que je dis non, non, non. Le N-O-N, hein, non. Le non de Dieu. Et ça, c'est moins facile à accepter. Mais rappelons-nous que si Dieu nous dit non, ce n'est pas forcément parce que Dieu va nous donner des explications, il n'est pas tenu de nous donner des explications, mais rappelons-nous que si c'est le non de Dieu, il sait pourquoi il nous dit non. Donc, et puis, quand on cherche la volonté de Dieu, quant à des projets professionnels, à l'achat d'un logement, même pour quand on est en âge de fréquenter, on ne veut pas se tromper. Et en fait, ça démontre aussi une maturité spirituelle, un sérieux spirituel, parce qu'on ne veut pas faire n'importe quoi. Et en fait, on attend la validation de Dieu. Donc c'est super, c'est bon. Mais ce qui j'aimerais vous conduire à une certaine réflexion ce matin, c'est que, et si la direction divine de Dieu devenait secondaire. Alors là, je ne vous vois pas, mais j'entends dans votre esprit des questions, les points d'interrogation. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Après son introduction, il est en train de nous dire que ça peut être secondaire. Peut-être que c'est secondaire. Et enfin, et si Dieu voulait tout simplement mettre une priorité, et sa priorité, c'est de mieux connaître Dieu, et d'avoir un cœur à cœur avec Dieu pour ensuite chercher sa volonté, pour chercher sa direction. En fait, si nous avons un cœur à cœur avec Dieu, si nous cherchons avant tout d'avoir cette intimité profonde, authentique, enracinée avec Dieu, alors nous accepterons le oui de Dieu sans problème, mais nous accepterons aussi le non de Dieu, si ça devait venir ainsi. J'aimerais prendre un exemple avec vous d'un homme, en fait, qu'on ne parle pas souvent de lui, ou parfois, quand on parle de lui, on parle souvent de lui d'une manière assez négative. Il est le point noir dans la parole, dans l'Ancien Testament. J'aimerais vous parler ce matin de Saül. De Saül. Alors, on a souvent, alors pour ceux qui sont peut-être novices, Saül, c'était le tout premier roi du peuple hébreu, hein, le roi Saül, qui se faisait remarquer par tout le monde, puisque, pas parce qu'il le voulait, mais enfin, dans un premier temps, pas parce qu'il le voulait, parce qu'il dépassait tout le monde d'une tête. Alors on savait, dans une foule, on savait où il était le roi. Ah bah tiens, il est là-bas, regarde, il est là-bas, c'est lui qui dépasse tout le monde. Bon. Alors, j'aimerais introduire ces moments avec un premier passage dans 1 Samuel, chapitre 9, et verset 3. Saül se fait connaître, en fait, commence à se faire connaître par ce passage. 1 Samuel 9, verset 3, il est écrit: « Les ânesses de Kis, le père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à son fils Saül, « Prends avec toi l'un des serviteurs et lève-toi et va à la recherche des ânesses. Amen. » Voilà comment commence son histoire. Va chercher les ânesses qui se sont perdues, dans l'objectif donc de les ramener. Saül se met donc en route avec son serviteur et ayant le désir, comme le porte ce nom, puisque le nom de Saül signifie désirer, désirer. Et certainement que Saül avait au moins le désir de pouvoir répondre aux besoins de son père. Et ça n'a pas été fait... ça n'a pas été sans difficulté, puisqu'il traverse la région montagneuse d'Éphraïm. Et avec sans doute un double objectif, puisque Éphraïm veut dire double récompense, et sans doute que Saül avait dans son esprit au moins ces deux objectifs. Le premier objectif, c'était de satisfaire son père. Le désir, je rappelle que c'est désirer, ça signifie son nom, le désir de Saül, c'était de satisfaire la demande de son père. Et puis le deuxième objectif, c'était d'avoir la satisfaction de réussir ce pourquoi il était envoyé en mission. Mais lui, comme bien d'autres, et peut-être vous d'ailleurs, voilà qu'il va rencontrer des moments de doute, des moments compliqués, des périodes de démotivation, ou plutôt une période de démotivation et surtout de découragement. Il est écrit au chapitre 9, verset 4, Saül traversa la région d'Éphraïm et le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim, ils n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin, ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsuf, lorsque Saül dit à au serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons, sinon mon père oubliera les ânes et s'inquiétera pour nous. » La mission est en train d'échouer. Sa mission, le désir de Saül, le désir de plaire à son père et le désir de réussir sa mission, en fait, devient un fiasco. Nous l'avons vu, ce n'a pas été fait sans effort. Il va gravir les montagnes. Et voilà que Saül est obligé de constater qu'il n'arrive pas à repérer les ânes et son désir va être rempli d'amertume, puisqu'il ne trouve pas. La mission est ratée, la mission est loupée. Verset 4, sans les trouver, au verset 4 encore, ils ne les trouvèrent pas. Et c'est important de voir que dans le verset 4, à deux reprises, il est question de fait de ne pas les trouver. Comme quoi c'était important pour Saül. Et ça a été compliqué sans doute dans son esprit, puisqu'il en arrive à faire la conclusion suivante au verset 5 en disant « Viens, retournons chez nous. » On retourne les mains dans les poches. Papa qui attend qu'une chose, c'est de voir les ânes. Et s'il m'a confié la mission, peut-être que vous êtes de ceux qui ressemblent à Saül, avec un cœur de serviteur, avec un cœur de servante, et vous aviez dans votre cœur un désir de satisfaire ce que Dieu vous avait demandé dans sa parole, et en fait, vous rendez compte que vous n'y arrivez pas par vous-même. Et ce désir, cette motivation, cet élan de cœur se transforme simplement en amertume. Je rappelle que l'amertume prend sa base et sa source dans la tristesse. Ce n'est pas l'amertume, vous savez, on a souvent tendance à dire « Ah, il est amer, elle est amère ». C'est souvent négatif quand on dit les choses comme ça. En fait, presque ça veut dire « il est désagréable ». Sauf qu'en fait, l'amertume, je répète, la racine de l'amertume se trouve dans la tristesse. C'est ce qui fait que les gens deviennent amers, tristes, n'ont plus d'objectif, n'ont plus le désir. Mais voilà qu'il y a toujours un homme dans l'ombre, un homme, une femme de Dieu dans l'ombre, et qui ne se font pas souvent remarquer d'ailleurs, puisqu'ils sont dans l'ombre. Mais combien il était important, ce simple serviteur dont vous remarquerez avec moi, on ne connaît pas son nom, c'était vraiment l'homme de l'ombre. L'anonyme de la situation, il va dire, le serviteur lui dit, tout ce qu'il dit, c'est au verset 5, alors, c'est où ça? Le verset 6, le serviteur lui dit, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme estimé. Tout ce qu'il dit arrive à coup sûr. C'est génial. L'homme de l'ombre, l'homme qui est juste le simple serviteur, va encourager celui, le fils de son maître, et sans même que le simple serviteur ne le sache, deviendra celui qui aura connu dans sa jeunesse, celui qui va devenir le premier roi d'Israël. le grand Saül. Et ce simple serviteur, il vit dans le secret, sans doute, de ses expériences, au moins il en a entendu parler, puisqu'il dit, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Il sait que dans cette ville, il y a quelqu'un qui connaît Dieu. Et il rajoute, c'est un homme estimé, donc un homme qui rend un bon témoignage. Et il dit, tout ce qu'il dit arrive à coup sûr. Alors, on ne sait pas si ce serviteur a fait des expériences avec celui qu'on va voir après, Samuel. Mais il est sûr que ce brave, ce serviteur qui était dans l'ombre, avait entendu parler de Samuel. Et en fait, Samuel, qui est simplement qui était le porte-parole de Dieu. Ah, ça ne veut pas forcément dire que ce serviteur était engagé avec Dieu, mais il avait été touché. Il en avait entendu parler. Ne méprisez pas ceux qui sont à vos côtés. Peut-être semblent ne pas forcément très très instruits dans le Seigneur, ou simplement instruit, Paul. Des fois, ce sont des serviteurs dans l'ombre qui vous donneront une parole de Dieu. Il faut savoir parfois descendre de son étage. Pas parce que nous sommes des gens pleins de nous-mêmes en disant « moi, je n'écoute personne ». Non, mais parce que des fois, il faut bien reconnaître, on a la tête dans le guidon et on n'entend pas. C'est bien connu, on n'est pas prophète dans son pays. Vous l'avez peut-être entendu. « Ah, ben moi, tiens, tu vois, elle te le dit, toi t'écoutes. Moi, ça fait combien de fois que je te le dis, t'écoutes pas. » Vous avez jamais entendu ça? C'est pas parce que les gens ne veulent pas vous écouter, en fait. C'est parce que comme vous, on se connaît très très bien, quand c'est l'épouse, quand c'est les conjoints, comme on s'en connaît très très bien, on se dit presque, ouais, elle me connaît, donc c'est... Mais lui ou elle ne me connaît pas, comme toi tu me connais. Donc là, ça a plus d'écho. C'est pour ça, c'est pas par méchanceté ou pour être désagréable. Et voyez-vous, ce serviteur va avoir une parole simple, mais qui va être percutante dans le cœur de Saül. Et, eh bien, on peut au moins y reconnaître ça, au moins une fois dans sa vie, c'est que Saül a su écouter ce que ce simple serviteur lui a dit. Voilà que nous arrivons toujours au même chapitre, mais au verset 19. Il est écrit, monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Samuel est en train de dire à Saül, monte avec ton serviteur avec moi, nous mangerons aujourd'hui, on va manger ensemble. Samuel connaît les pensées de Dieu, c'est l'homme de Dieu, le prophète. Et il était dans l'intention de Samuel de lui faire plus que connaître la situation de ses ânesses. Il avait en fait un message à lui délivrer. Il savait que Dieu l'avait choisi. Samuel était dans l'intimité de Dieu. Et Dieu avait montré à Samuel que c'était ce Saül qui allait être l'homme qui allait devenir le roi, le premier roi d'Israël. Et donc Samuel avait un message à lui délivrer, puisque Dieu avait un dessein divin pour Saül. Et voilà que Samuel commence en disant, « Monte devant moi au lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. » En fait, c'est exactement ce que Dieu veut faire avec nous, avec chacun d'entre nous. Pouvoir s'asseoir à table pour nous parler dans l'intimité. Et c'est un véritable privilège d'être invité à dîner ou à déjeuner. Peut-être pas, non. Si on vous invite, vous croyez que les gens ils vont vous inviter parce que vous avez des beaux yeux? Si les gens vous invitent, c'est parce qu'il y a un intérêt derrière. L'intérêt de partager avec vous le repas, parce qu'ils veulent avoir un cœur à cœur avec vous. Je ne parle pas de ceux qui prennent un repas pour faire des affaires. Je ne parle pas de ces gens-là. Les affaires pour le travail, tout ça, ça n'a rien à voir. Moi, je vais manger au restaurant là-bas à Montluçon avec les pasteurs. C'est pas pour... on va parler de projets, de ceci, cela. Voilà. Bon, il y en a. Après, je vais manger avec certains parce que j'ai le plaisir de manger avec eux. Voilà. Bon, hein. Mais sinon, quand on nous invite, c'est pas pour... Il y a de l'intimité. Et c'est tellement vrai que... Rappelez-vous du passage de Méphibosheth, le fils de Jonathan, qui d'ailleurs était le petit-fils de Saül. Ce petit gamin qui est devenu grand, mais quand il était enfant, il est tombé, il a été handicapé des deux pieds. L'histoire nous dit et nous raconte qu'en fait, David, qui sera le deuxième roi d'Israël, qui va succéder à Saül, va inviter Méphibosheth à manger tous les jours à la table du roi à Jérusalem. Tout à l'heure, nous avons pris la Sainte Cène, qu'on appelle le repas du Seigneur. Là aussi, il y a tout un symbole, le repas. Alors bien sûr, je ne pense pas que vous soyez rassasiés avec le symbole du pain et le peu de vin que vous avez bu, mais le mot repas est derrière aussi. Et puis, lorsque Jésus a pris son dernier repas avec les disciples, c'était aussi très symbolique. Donc le repas, lorsque Dieu nous invite à prendre un repas avec lui, c'est rentrer dans sa présence. Avant que Dieu nous donne une direction, il faut entrer dans sa présence. Au verset 20, Samuel va lui dire quelque chose qui perturbait Saül, mais la raison pour laquelle Saül était venu voir Samuel, c'était pour avoir une réponse à sa question, où sont ses ânesses ? Et voilà que Samuel va lui dire, « Ne t'inquiète pas pour les ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. » Ouf, ça y est. En fait, Samuel savait quelle était la préoccupation de Saül et la raison pour laquelle Saül était venu voir Samuel pour ses ânesses, pour la réussite. Il ne voulait pas, il y avait eu une main tendue, pas comme, mais il avait eu une main tendue par son serviteur, donc... Il a voulu malgré tout aller jusqu'au bout du bout en disant, voilà, lui là, Samuel, l'homme de Dieu, il va me dire où elles sont mes ânesses. C'est ma préoccupation. Et en fait, c'est comme si Samuel lui disait, t'inquiète pas. Ne te laisse pas envahir par des préoccupations qui sont secondaires. Ne te laisse pas distraire parce que j'ai à te parler. Mes ânesses, c'est une chose. Mais t'inquiète pas, ça y est, c'est réglé. Et peut-être que vous passez par un temps où vous avez vos ânesses à vous aussi. Vous êtes en recherche de vos ânesses. Et ça vous préoccupe, ça vous inquiète, ça vous prend toute votre énergie, ça prend vos pensées, ça vous empêche de vous endormir. Vous couchez le soir, vous pensez à vos ânesses, vous rêvez le matin, à peine les yeux ouverts, paf, les ânesses qui vous reviennent à l'esprit, et vous dites, mes ânesses, mes ânesses, mes ânesses. Et si Dieu ce matin vous disait, ne t'inquiète pas de tes ânesses, je vais m'en occuper. Et là, même à l'heure où Samuel parle à Saül, en fait, il est en train de lui dire, ça y est, elles sont retrouvées. Je rappelle qu'il n'y avait pas le portable, hein. Vous saviez ? Donc, t'inquiète pas, c'est déjà réglé. Et Dieu veut régler des fois des soucis d'eux, veut régler nos ânesses avant même qu'on ne puisse le voir de nos yeux. C'est déjà réglé, c'est déjà plié. Le dossier est déjà casé, rangé dans les archives. Et avant que tu ne vois les ânesses, j'ai réglé donc ton problème. Elles sont retrouvées. Samuel va lui dire au verset 24, « Voici ce qui a été... » réservé, au verset 24, nous pouvons le lire ensemble. Donc, verset 24, « Le cuisinier préleva la cuisse et ce qui l'entoure, et il a servi à Saül. Samuel dit, « Voici ce qui t'a été réservé, serre-toi et mange, car on l'a gardé pour toi. » Au-delà du fait qu'il y ait une partie de la bête soit réservée pour Saül, moi, ce qui m'a interpellé, ce qui me fait du bien de voir, c'est que, de lire, c'est que voici ce qui était réservé pour toi. En amont, Samuel avait réservé une pièce de viande pour Saül. Et quel beau verset. En somme, un plan qui est fait sur mesure pour Saül. Avez-vous pris connaissance, en fait, de ce qui a été réservé pour vous de la part de Dieu ? C'est une question que je vous pose. Avez-vous pris connaissance de la pièce de viande que Dieu a mis de côté rien que pour vous ? Réservée pour vous, pas pour un autre, mais pour vous. Il y a des choses que, bien sûr que le plan de Dieu est universel, le salut, la croix, la repentance, le salut, voilà, et d'autres choses encore. Mais il y a des pièces de viande qui nous sont réservées. Vous comprenez quand je dis des pièces de viande. Il y a la volonté de Dieu qui peut être différente des uns aux autres. Il y en a peut-être qui partiront en mission, d'autres qui resteront peut-être ici, d'autres qui vivront des choses extraordinaires. Peut-être que quelques-uns passeront par la maladie pour se voir guérir. Peut-être d'autres se verront malades et se voir mourir. Et de se dire, mais quelle est la volonté de Dieu ? En fait, la volonté de Dieu pour nous est différente. Et nous avons tous une portion de viande, de bénédiction que Dieu veut nous accorder à nous, qui n'est pas réservée pour les autres. Et puis, au verset 27, il va dire, quand ils furent descendus à la limite de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Le serviteur passa devant, « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je vais te faire connaître la parole de Dieu. » Comprenez-vous ce que Dieu veut dire ici ? Vous avez compris ? Cette portion, cette invitation à la table de Dieu, cette part qui vous a été réservée, pour vous. Et puis après, il y a rentre dans mon intimité. C'est bien de prier en famille. De prier à l'église, c'est bien aussi, bien sûr. Mais je crois que c'est bien aussi de prier seul. Avec Dieu, bien sûr. Parce qu'il y a des choses que l'on dira à Dieu quand on est seul. Pas parce que ce sont des choses qui ne doivent pas se savoir. Seigneur, tu vois, j'ai encore joué au tac au tac, pardonne-moi, ma femme ne le sait pas. On sait bien qu'un chrétien, il ne joue pas au tac au tac, ni il n'a pas la démangeaison, le chrétien, il ne joue pas au jeu d'argent. Bon, ça c'est une chose. Mais pour d'autres choses, des engagements avec Dieu. Moi, il y a des choses que j'ai dit à Dieu, je n'ai pas, pas envie que ma femme et mes enfants soient au courant. C'est mon cœur avec Dieu. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je dis quelque chose à Dieu, je veux, en fait, ce que je veux m'entendre le dire, je veux qu'en fait, ce soit l'écho, la caisse de résonance de mon cœur. Et si je le dis, ça veut dire que je veux le vivre. C'est juste pour dire, Seigneur, je t'aime, je suis prêt à aller en prison, à la mort pour toi. Et d'être à 10 000 de ça, ce n'est pas la peine. Et si je dis quelque chose à Dieu, je veux qu'en fait, ça soit, ma bouche soit simplement l'écho de ce que je veux vivre dans mon cœur en disant, Seigneur, je veux, je dis Amen. Si vraiment tu désires marcher avec moi, si vraiment tu désires l'onction, il te faut chercher ma part bien plus qu'une direction, Saül. Une direction où sont tes ânesses, oui, mais c'est secondaire. Ce dont tu as besoin, Saül, parce que je t'ai choisi, c'est de rentrer dans mon intimité. Personne ne pourra rentrer dans votre intimité, remplacer vous avec Dieu. Je veux dire par là, c'est que des fois, il y a des gens qui disent, priez pour moi, prie pour moi toi. Toi, tu pries pour moi, qu'on demande à prier les uns pour les autres, oui. Mais il y a des fois, il y a des gens qui disent, prie pour moi, comme si que si moi je prie, ça va marcher et que toi, Dieu ne va pas t'écouter. Je suis désolé, si vous n'avez pas l'habitude de demander à Dieu, si c'est quelqu'un qui ne croit pas ou connaît à peine Dieu, s'il me dit, ben, prie pour moi, parce que moi, je ne peux pas, j'ose pas, ben, moi, je vais dire, mais prie, toi. Je vais prier, mais toi aussi, prie. Et en fait, ce que Dieu veut désire, c'est que nous puissions rentrer dans son intimité, avant même de savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi ? Montre-moi la direction de mes ânes. Dieu veut nous dire, rentre dans ma présence, rentre dans mon intimité. En fait, je veux avoir un cœur à cœur avec toi. Je veux que tu puisses entendre le battement de mon cœur. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Parce qu'il va dire aux 12 disciples. Il y en a un au repas. Il y en a un qui va me renier. Aïe, aïe, aïe. J'imagine l'ambiance. Tout le monde devait s'observer, les uns les autres, en disant... Parce que vous savez, quand on est gêné, des fois, on est comme ça. Non, c'est pas... Ah, c'est lui ! Pourquoi c'est lui ? Ben, il n'arrête pas de bouger. Ou il est sur le bord de sa chaise, il ne se met pas dans le fond de sa chaise. Il croise ses jambes, il est comme ça, il est avec son stylo, il est comme ça. C'est lui, à tout coup. Donc, il n'était pas question de ça, mais j'imagine que les 12 disciples ont dû se regarder en disant... Qu'est-ce qu'il vient de dire Jésus ? Comme Jésus, lorsqu'il nous dit quelque chose, ça ne peut pas manquer d'arriver. Il y en a un qui veut le renier, mais c'était grave. Alors sans doute que les uns les autres se sont observés. Puis l'apôtre Pierre s'est tenu à distance. Et l'apôtre Pierre que tout le monde connaît, lui qui a toujours, qui est plus rapide que son ombre quand il parle, ce jour-là, il ne parle pas. Mais il voit Jésus. Et il voit l'apôtre Jean sur la poitrine de Jésus. Parce que dans ces pays, lorsque vous arrivez en France, en Occident, vous vous mettez sur le canapé, vous êtes assis sur le canapé, si vous allongez, si vous faites la sieste. Mais là-bas, dans ces pays orientaux, on se met les uns à côté des autres comme ça. C'est comme ça. On s'affale. Et l'apôtre Jean, donc, il avait sa tête sur la poitrine de Jésus. L'apôtre Pierre qui ne parle pas, va faire signe à Jean pour dire qui c'est. Qui est-ce qui va me renier ? Jean aurait pu retirer sa tête. La question que j'aimerais vous poser, êtes-vous Pierre ce matin ou êtes-vous Jean ce matin ? Êtes-vous de celui qui se tient à distance en comptant sur les autres ? Ou est-ce que vous êtes Jean en disant, Seigneur, moi, je veux rester là, je veux entendre ton cœur à cœur. Je veux rentrer dans ton intimité, dans l'intimité de Dieu. Je veux vraiment cette relation. Je veux pas me contenter de ce que tu m'as donné. Je veux pas simplement faire une belle prière, bien chanter, bien lire la Bible ou quoi, je ne sais quoi encore. Faire de bonnes actions si le cas se présente. Mais je veux rentrer dans ta présence, dans la présence de Dieu. Et souvent, on rentre dans la présence de Dieu. Bien sûr, ce matin, nous sommes rentrés dans la présence de Dieu. Et je crois qu'on ne rentre jamais dans la présence de Dieu autant que quand on est seul à seul avec Dieu. Et la preuve en est, au chapitre de Genèse 32, verset 25, les questions de Jacob, il est dit, il resta seul. Il resta seul. Et Dieu s'est manifesté, s'est révélé dans son cœur. Dans 1 Roi 19, verset 3, Élie, il laissa son serviteur. Lorsqu'il était seul, Dieu lui dira, que fais-tu ici, Élie ? Dieu va révéler à Élie ce que Dieu voulait faire. Et concernant Jésus, Luc 5, verset 16, est écrit, mais lui, il se retirait dans le désert et Jésus, qui est notre exemple, notre modèle absolu, se retrouvait seul pour prier, pour avoir un cœur à cœur avec son Père. Nous pourrions entendre, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est là dans le lieu désert, dans le lieu secret, et ton Père qui te voit, qui voit dans le secret, te le rendra. » Et un dernier verset, Jérémie 33, 3. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas, et je rajoute, si ce n'est que si tu rentres dans ma présence. Voyez-vous, je termine, ce jeune Samuel qui est venu partager avec ce Saül, et Samuel est ici le type de la personne du Saint-Esprit qui nous conduit vers Dieu. Ce Samuel, lui, qui a su parler et faire comprendre à Saül qu'avant d'avoir une direction, avant d'avoir une bénédiction, il faut rentrer dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu, dans le lieu secret. Quel est votre endroit à la maison? Peut-être que vous avez un endroit où vous dites, là, ah, j'aime cet endroit. Moi, des fois, quand je vois des maisons, alors je m'amuse et je dis à mes enfants, à ma femme, je dis, tiens, si on voit une photo, un truc comme ça, au bord de mer, un village avec une maison, avec une chambre plus élevée que les autres. Je dis, tiens, là, c'est mon bureau, là. Ah, je m'imagine, je me dis, ah, je m'arrête faire mon bureau, là. Ah, la plus haute est perdue, là-haut, dans ce local, dans cette maison. Être là, hein, dans l'intimité, même si c'est un petit bureau, c'est pas grave, être là. En disant, Seigneur, parle, c'est mon Dieu à moi. Est-ce que vous avez un lieu à la maison? C'est important. Enfin, c'est important. Vous pouvez prier où vous voulez. La cuisine, le salon, dans votre chambre, au pied de votre lit, peu importe. Hein. Dans votre cafouche, dans votre voiture, peu importe. Mais avoir un endroit, Seigneur, oh, je te rends compte, Seigneur, je veux que tu puisses eh bien, me parler. Parle-moi. Je veux rentrer dans ton intimité. Et donc, ce Samuel, et la fin, j'aimerais... La conclusion de tout ça, c'est que ce Samuel qui a su dire ces choses à Saül, c'était l'homme qui ne parlait, il savait de quoi il parlait. Que ce Samuel a compris que c'était que dans l'intimité de Dieu que Dieu se révélait des choses à notre cœur, à notre vie, pour après avoir une direction divine. Rappelez-vous ce jeune Samuel, il a appris, et en fait ça s'apprend de rentrer dans l'intimité de Dieu. Samuel qui travaillait, le jeune Samuel qui travaillait auprès d'Élie. Quand Dieu va dire, Samuel, pendant qu'il dormait, il s'est réveillé, il est allé voir Élie. Oui, tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Va te coucher. Il a dû se dire, j'ai dû faire un rêve, je ne sais pas. Samuel, ah, il se lève, il va. Tu m'as appelé? Non, va te coucher. Alors, il entend, Samuel. Ah, il se lève encore une fois, il va voir l'homme de Dieu. Il dit, tu m'as appelé. Et regardez comme c'est tragique. C'est tragique dans ce passage. C'est dans ce passage. Élie, il va réaliser qu'en fait, il sait que ce n'est pas lui qui l'appelle, mais il va réaliser, il s'est souvenu que Dieu pouvait parler. Va te coucher. Et si tu entends à nouveau ton nom, tu diras, parle Éternel, ton serviteur écoute. Élie, voyez-vous, il vivait dans le souvenir de ce que Dieu lui avait parlé jadis. Ne vivons pas dans le souvenir de l'intimité de Dieu. Mais vivons dans la fraîcheur de Dieu. Dieu ne fonctionne pas au jour férié. Dieu ne fonctionne pas au jour férié. Un jour je suis là, un jour je ne suis pas là, ou un jour sur deux, enfin peu importe. Dieu veut que nous puissions pénétrer dans la présence, dans son intimité, pour qu'il puisse parler à notre cœur, cœur à cœur. Et je vous assure, après nous connaissons malheureusement l'histoire de Saül, il n'a pas su entretenir ce que Dieu lui avait donné. Samuel, lui, l'a su. Il a vécu, il a transmis. Saül a reçu, mais il n'a pas pu transmettre, parce qu'il a perdu. Alors que le Seigneur nous bénisse ensemble. Quand on rentre dans l'intimité de Dieu, alors après on a de l'assurance pour demander sa direction. Et on est prêt à entendre oui de Dieu ou le non de Dieu. Parce qu'on est rentré dans sa présence. Alors retrouvons peut-être notre intimité avec Dieu. Retrouvons, entretenons cette intimité avec Dieu. Alors on va prier. Peut-être qu'on pourrait fermer les yeux et faire un simple appel. Et je vous invite vraiment tous à fermer vos yeux pour garder la pudeur du cœur. Parce qu'on n'a pas envie, le voisin, on n'a pas envie que le voisin sache si je vais lever ma main ou pas. Et de toute manière, c'est quelque chose qui est tout à fait personnel. Et si votre voisin sait que vous sentez ça vous concerne ce matin, ce message, ben voisin, ne tapotez pas sur la jambe de votre voisin pour dire « lève la main, lève la main ». Ça ne vous regarde pas. C'est quelque chose intime, personnel. Je vous invite, vraiment les yeux sont fermés, je vous invite peut-être que vous avez besoin à nouveau de rentrer dans cette intimité avec Dieu. Alors je vous invite à lever votre main. On va prier le Seigneur. Que le Seigneur puisse... Je vous ai levé la main, vous pouvez la rabaisser. Y en a-t-il encore d'autres? Dernier appel, oui. Dieu va vous bénir. Ne t'inquiète pas de tes ânesses. Il a réglé le problème, même si tu ne le vois pas. Parce que lui ne s'arrête pas aux ânesses. Il veut pour toi, ce qu'il veut pour nous, pardon, c'est que nous soyons dans son intimité. On va demander à Jean Bosco de prier pour ces personnes qui ont levé leurs mains, s'il vous plaît. Jean Bosco. On va demander aussi à Nora de terminer par la prière. Et à l'issue, donc, ceux qui veulent partir, bien, vous partez. Et puis, si vous avez des choses à faire, si vous n'aviez pas prévu de rester pour le jeûne et prière. Et puis, après, vers après-midi, après 12 heures, donc, on pourra commencer le temps de jeûne et de prière. Voilà, Nora.